Et nous voilà de retour avec l'Union départementale des syndicats CGT du Nord pour occuper l'antenne en ce 1er mai. Et vous l'avez compris, tout a été enregistré pour que vous puissiez, seul ou en famille, guincher et manifester dans notre salon, dans la cuisine ou pourquoi pas, dans la salle de bain. En revanche, ce qui est en direct, en vrai de vrai, c'est vos commentaires sur la page Facebook UDCGT Nord. Vous likez aussi, hein, vous nous dites comment vous passez ce 1er mai. Eh bien, pour nous, c'est confiné, mais pas muselé. Celle-là, interdit hein, de faire un copier-coller. On a les droits d'auteur. Allez, on a du pain sur la planche, du pain maison. Bah oui, confinement oblige et je vous emmène chez Toyota Ona avec Eric Pecker. Eric, bienvenue à l'antenne.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire du syndicat CGT à l'usine Toyota d'Ona, près de Valenciennes. Et si mes informations sont bonnes, vous avez repris le boulot. Donc, on va revenir sur la situation. Comment s'est d'abord passé le confinement?
Déjà, il faut comprendre que si l'usine a été mise à l'arrêt le 17 mars, c'est parce qu'il y a des débrayages qui commençaient à se développer et qui menaçaient de se généraliser à toute l'usine. Et c'est sous cette pression-là que la direction de Toyota, qui s'apprêtait à continuer la production, a fermé l'usine temporairement. Elle est revenue à la charge pour redémarrer sa production, parce que Toyota, comme tous les grands groupes capitalistes, voit d'abord les profits avant la santé des travailleurs. Et ça, c'est une idée qui a été comprise par l'ensemble des salariés de l'usine.
Et quelle a été la réaction de vos collègues syndiqués quand on a commencé à parler de reprise?
Là, vous savez, il y a beaucoup de réticences, il y a de la crainte. Et puis tout le monde a conscience que travailler dans cette usine regroupée à 1500 dans les ateliers, c'est déjà le premier risque. On a tous entendu parler des cas de contamination sur le porte-avions Charles de Gaulle. Nous, on est plus de deux fois l'équipage du porte-avions, on est 4500 à l'usine. Sauf que nous, on n'est pas embarqués en pleine mer. Si jamais il y avait à nouveau des cas de contamination dans l'usine, nous, le problème, c'est qu'on est immergé dans la population et le risque est très, très important, hein, non seulement pour les salariés et leurs familles, mais pour toute la population de la région.
Et la lutte se passe comment, du coup? Est-ce qu'il y a des référés? Est-ce qu'il y a des dossiers pour pouvoir attaquer en justice par la suite?
Avec la crise économique qui est enclenchée, en réalité, le problème, c'est plus un problème juridique, hein, c'est un problème de rapport de force entre le patronat, les actionnaires et la classe ouvrière. Voilà, c'est un problème de conscience qu'on aura à défendre nos intérêts, parce que leur crise, la crise du système capitaliste, ils vont vouloir nous la faire payer et chèrement. Donc là, en réalité, la direction a dû prendre des tas de mesures, et y compris renoncer à nous piquer les 6 jours de congé, à accepter de mettre un tout petit peu la main à la poche pour payer le complément au chômage partiel. Et voilà, c'est en faisant des concessions pour éviter de rajouter du mécontentement au mécontentement général, que pour le moment, elle essaye de faire revenir les travailleurs à l'usine, mais c'est pas gagné.
Les hommes et femmes politiques de la région avaient pourtant demandé à ce que des conditions de reprise se fassent en pleine sécurité. Ils ont été entendus, selon vous, ou pas?
Non, ben, vous savez, les représentants politiques des partis gouvernementaux, ils ne sont pas là pour défendre les travailleurs. Au contraire, ce qu'on a pu voir, y compris les inspecteurs du travail qui ont tenté de défendre la santé des travailleurs justement contre les reprises prématurées, sont vus sanctionnés, ont été soumis à des grosses pressions. Non, les travailleurs, ils doivent compter que sur leur propre force collective pour se défendre.
Et donc, le choix qui a été fait, c'est de construire des voitures plutôt que de sauver des vies, ou en tout cas de protéger des vies.
Oui. Puis actuellement, pour pouvoir faire ça, Toyota se dote de 50 000 masques chirurgicaux par semaine, alors qu'il en manque encore pour des milliers de personnels soignants dans les hôpitaux, les soignants libéraux, les médecins traitants, les médecins de ville. Et ça, c'est un scandale.
Merci beaucoup, Eric Pecker. Avant de nous quitter, finalement, vous proposez quoi en tant que secrétaire du syndicat CGT?
On aidera les travailleurs à se défendre. Hein. On sera aux côtés d'eux. C'est concrètement dans les ateliers aux salariés de choisir ce qui est acceptable ou pas en fonction de leur sécurité et pas s'en remettre à la direction. Ce qu'ils auront décidé, ce ben, sera à eux de l'appliquer, de l'imposer.
Merci beaucoup. On vous retrouve pour rester en contact avec vous. Il y a votre page Facebook, Eric Pecker, et je rappelle que vous êtes le secrétaire du syndicat CGT à l'usine Toyota d'Onin. À bientôt, bon courage.
À bientôt, et puis la page CGT Toyota.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges. Dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge. Avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Le soir, les navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. Et main d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et main d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Bernard Lavilliers, qui lui-même a été ouvrier, d'où cette chanson qui rend hommage aux centaines de milliers d'ouvriers qui se sont usés la santé pour des industriels, des patrons, qui ne le leur ont pas rendu comme il se doit. Bernard Lavilliers, lequel, le 1er avril 2018, alors invité de Catherine Sellac dans son émission Thé ou Café, parlait de vous, peut-être de toutes celles et ceux qui sont privés de travail et de dignité par une société qui les accuse injustement de paresse, un beau moment de télé appuyé par cette chanson. Écoutez plutôt.
J'ai écrit ça il y a 20 ans, vous voyez. C'est une chanson d'espoir, hein, j'aurais bien vous dire ça, parce qu'effectivement au début c'est... Mais travailler encore, c'est ce qu'ils demandent les gens. Ils ne demandent pas des aides de l'État, qu'on leur paye tout. contrairement à ce que certains racontent, ou qui serait même fainéant, hein. C'est une erreur, ça. Moi, je pense qu'ils demandent toujours la dignité.
Eh oui, la dignité, d'autres valeurs syndicales que nous défendons à l'Union départementale des syndicats CGT du Nord, qui vous offre ce rendez-vous pas comme les autres en ce 1er mai, que nous vous souhaitons le meilleur possible, bien évidemment. Alors n'hésitez surtout pas, comme je vous l'ai déjà dit, à vous préparer à chanter l'international avec nous en fin d'émission, et vous pourrez prendre aussi des photos de cet événement pour l'immortaliser, photos ou vidéos, et puis ensuite, bah tiens, vous pouvez nous les envoyer si vous voulez, hein, voilà, sur la page Facebook, en message privé, pourquoi pas, et puis on mettra les meilleurs. Et puis encore une fois, merci d'être avec nous. Merci aussi aux radios qui diffusent ce programme. Il y a trois radios, pour tout vous dire. Il y a Pastel FM et Radio Campus sur l'île Métropole. Et puis Radio Scarpe Sensée qui, elle, émet sur Douai, Arras, Lens, Cambrai. Et nous allons retrouver mon petit camarade de jeu, j'ai nommé Hervé Dujardin, qui a interrogé pour nous Barbara Semaille.
Alors moi, je suis surveillante pénitentiaire. Ça fait 17 ans que je suis dans la pénitentiaire et actuellement, je suis secrétaire locale CGT à la maison d'arrêt de Douai.
Elle a été compliquée, l'action syndicale, par les mesures de confinement.
Oui, ça a été compliqué, mais en même temps, on est toujours resté malgré tout, soit en audioconférence, soit par téléphone. On est toujours resté en contact malgré tout avec les régionaux, les nationaux, et on essaye de communiquer un maximum par le biais des réseaux sociaux, en fait, du coup, puisqu'on a du mal, on ne peut plus se réunir actuellement, quoi. Donc on maintient l'activité syndicale de coûte que coûte.
Justement, il y a eu besoin d'une vigilance et d'une veille particulière au regard de l'exercice de votre profession.
Oui, parce qu'en fait, nous, depuis le début du confinement, en fait, on est un peu les laissés pour compte de l'administration en général. On ne parle jamais de nous et en fait, on en a tendance à nous oublier, donc pour tout. Pour tout ce qui est matériel médical, pour tout ce qui est médical, les masques, je parle des masques, hein, pour ce qui est le gel hydroalcoolique, tout ce qu'on a besoin, le matériel dont on a besoin et la reconnaissance aussi, parce qu'on parle toujours des pompiers, on parle toujours de la police, de la gendarmerie, mais nous, on est au front tous les jours et malgré tout, on ne parle jamais de nous. Donc, il a fallu quand même alerter pas mal de fois pour qu'on puisse parler de la pénitentiaire.
Cette reconnaissance réclamée, vous la demandez aujourd'hui, ce n'est pas une revendication qui vient de tomber là du ciel?
La reconnaissance, on l'a toujours demandé. Nous, à la CGT, ça fait 15 ans qu'on demande la catégorie B parce qu'on estime qu'on la mérite. On est une force de l'ordre malgré tout. On nous fait défiler sur les Champs-Élysées au même titre que la police, mais en même temps, on est toujours les seuls à être en catégorie C. Donc la catégorie B, déjà, c'est une reconnaissance pour nous, ça c'est clair et net. Et ça fait 15 ans, nous, à la CGT, qu'on la prône. Donc on espère que cette fois-ci, on ne sera pas oublié et qu'on l'obtiendra.
Ça modifie quoi? Uniquement le traitement des fonctionnaires, ce changement de catégorie?
Ça modifie au niveau des salaires, mais ça modifie aussi au niveau de la retraite. Donc forcément, si on est payé plus, on a plus de retraite. Et comme on sait qu'il va y avoir la réforme de la retraite, c'est d'autant plus d'actualité, en fait.
Avec un calcul éventuel de la valeur du point indexé sur le produit intérieur brut, aujourd'hui, il vient de s'écrouler, ce produit intérieur brut. Elle a encore du sens, cette réforme?
Pour moi, elle n'a pas de sens, mais en même temps, on sait très bien que l'objectif du gouvernement, c'est de capitaliser et que tôt ou tard, ils essaieront de le faire de toute façon. Là, en plus, avec le confinement, c'est d'autant plus facile d'imposer des choses, des choix, puisqu'ils savent qu'on ne peut pas manifester, ils savent qu'on ne peut pas aller dans la rue et que là, ils sont quand même en train de nous casser le code du travail. Quoi. Je veux dire, on nous oblige de travailler plus, on nous oblige de prendre moins de congés. Enfin, je veux dire, c'est quand même... je parle pas pour nous, la pénitentiaire spécialement, je parle en général. Donc je pense qu'à un moment donné, quand ils se rendront compte que l'économie elle est au plus bas, il va falloir capitaliser et je pense qu'ils essaieront de nous la mettre coûte que coûte.
On a entendu dire que le temps de confinement c'était le temps propice à la méditation. On ne pensait pas qu'ils peuvent méditer un petit peu sur les décisions à prendre prochainement et que l'ajournement peut être également pour le pouvoir, peut-être une prise de décision d'abandon de cette réforme. Vous n'y croyez pas?
Non, moi, personnellement, j'y crois pas parce que là, on se rend compte que le gouvernement, il est dans une optique, en fait, de capital. En fait, c'est le capital qui prime sur le reste, sur la santé surtout. On relance les activités, on parle de Toyota, on parle de PSA, on parle de Citroën. On envoie quand même pas mal de gens au charbon. Et en même temps, c'est des trucs qui sont pas forcément indispensables à l'heure actuelle, puisqu'on sait même pas où stocker les voitures. Et en même temps, eh ben, on nous dit oui, mais il faut relancer l'activité économique. On fait prendre des risques inutilement pour relancer l'activité. On envoie les enfants à l'école pour que les parents puissent travailler. Enfin, je veux dire, c'est juste pour relancer l'activité. Donc l'économie, elle prime sur tout le reste. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut quand même se rendre à l'évidence qu'on est dans, avec ce gouvernement-là, pour moi, c'est un avis personnel, dans une politique de capitalisation et que le capital primera toujours sur le reste. Donc à un moment donné, les réformes, elles se font.
Vous avez entendu, au début du confinement, votre leader national lancer un appel à la grève en pleine période de confinement. Ça a été mal compris, ça? Comment vous avez regardé ça, vous?
Moi, personnellement, je l'ai pas mal pris dans le sens où c'était pour protéger les gens, en fait, parce que on continue à nous envoyer au travail sans protection, sans rien. On sait très bien que sans protection, l'épidémie, elle va se propager à vitesse grand V. Donc après, oui, effectivement, il fallait, je pense, faire peur pour qu'on puisse avoir le minimum pour travailler dans de bonnes conditions. Donc je l'ai pas, moi personnellement, je pense que c'était une bonne chose parce qu'il fallait alerter quand même sur les conditions de travail. Et oui, effectivement, pour moi c'était une bonne chose.
Faudrait être vigilant justement sur les conditions de sécurité au moment du déconfinement.
Ah bah évidemment. Évidemment, parce qu'on sait déjà qu'on risque une deuxième vague prochainement, et donc forcément, il faut limiter les risques au maximum, quoi. Donc il faudra être vigilant, il faudra que tout le monde soit équipé, il faudra qu'on ait un minimum de précautions quand même pour pouvoir reprendre le travail correctement. Ça, c'est, pour moi, c'est une certitude.
Veillez également à ce que le coût de cette période extraordinaire pour l'économie et pour les entreprises ne soit pas répercuté sur les salariés de ces entreprises. Vous craignez qu'on cherche à rogner sur les droits des salariés afin de rétablir un équilibre dans les comptes?
Mais c'est ce qu'ils envisagent de faire de toute façon, hein. C'est ce que je vous dis, ça passe par les congés, ça passe par le nombre d'heures travaillées par semaine. Je pense qu'ils vont vouloir justement rogner, comme vous dites, sur le personnel. Et pour moi, c'est juste inconcevable, quoi, en fait. C'est juste inconcevable parce que c'est pas à nous, les petits soldats qui sommes au front tous les jours, d'avoir encore à payer cette crise. Après, à un moment donné, il y a quand même pour moi, il y a l'ISF qu'on peut remettre en place. Il y a quand même des grands actionnaires qui vont toucher des dividendes. Tout ça, ça peut être redistribué. Donc, j'estime que c'est pas à nous de payer les conséquences de la crise. C'est pas à nous.
C'est-à-dire que c'est à Vivendi, au-delà de son don de 100 millions d'euros pour l'hôpital public, de payer?
Mais en même temps, ils touchent quand même des dividendes qui sont assez extraordinaires. Donc, ils donnent 100 millions d'euros, mais derrière, ils vont en toucher 40 milliards. Donc, enfin, je veux dire, voilà quoi. L'action est bonne, hein, je ne veux pas dire le contraire. Hein, ils donnent de l'argent, ils font des dons, c'est bien. Mais d'un autre côté, on sait très bien combien ils vont récupérer derrière, quoi. Donc, pour moi, c'est un peu hypocrite, quoi.
La seule solution pour être sûr d'être en sécurité, c'est quoi? C'est de faire valoir son droit de retrait?
Oui et non, parce qu'à un moment donné, il va falloir retourner au travail quand même, il va falloir quand même reprendre une vie normale, entre guillemets. Après, le droit de retrait, si tout le monde exerce son droit de retrait, il n'y a plus rien qui tourne. Et moi, je pense notamment aux supermarchés, ils travaillent dans des conditions quand même assez dramatiques. Hein. Il y a quand même pas mal de morts chez Carrefour et tout ça, donc ils travaillent quand même dans des mauvaises conditions. Et pourtant, ils sont au travail tous les jours parce qu'il faut que les gens vivent, parce qu'il faut que l'économie, elle vive aussi. Donc le droit de retrait... Ça peut être une bonne chose, mais après, il y a des conséquences derrière, quoi.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces personnes qui, aujourd'hui, en chômage technique, disent « mais nous, on a besoin d'en prendre le travail parce qu'avec 85% de notre salaire, on ne va pas tenir, on ne peut pas s'en sortir ».
Je le comprends parfaitement parce que j'ai vu un reportage, c'était la semaine dernière, où il y avait un monsieur qui disait « moi, ma femme ne travaille pas, j'ai touché 200 euros de salaire ce mois-ci, j'ai 3 enfants à charge, mon frigo est vide ». Je peux comprendre que ces gens-là, ils ont envie de reprendre le travail parce qu'ils ont besoin d'argent. Maintenant, faut comprendre aussi qu'entre quatre planches, ils ne pourront plus aider leur famille non plus. Donc, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas les empêcher de travailler parce qu'on sait qu'ils ont besoin d'une rentrée d'argent. Mais d'un autre côté, on leur dit « faites attention ». Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un maximum de précautions qui soient prises pour qu'ils n'aient pas à ramener ça chez eux et qu'ils ne se retrouvent pas entre quatre planches non plus. C'est vrai que c'est une situation complexe. C'est une situation complexe, oui, effectivement. Moi-même, la première, je suis obligée d'aller travailler. Je vais travailler tous les jours. Maintenant, je sais très bien que si je n'ai pas les conditions nécessaires pour travailler, nous, personnellement, on exercera notre droit de retraite parce que voilà, il faut qu'on ait de quoi travailler et de quoi ne pas propager cette épidémie, parce que chez nous, c'est d'autant plus compliqué qu'on est confiné. Mais on peut limiter les risques. Il faut limiter les risques. Il faut qu'on nous donne les moyens de limiter les risques.
2020, un 1er mai exceptionnel. Quel devra être le mode d'organisation pour appeler à la mobilisation pour collectivement pouvoir défendre les droits des salariés?
Ça va passer par les réseaux sociaux de toute façon, mais en même temps, ça n'a pas le même impact que quand on est dans la rue. Il faut reconnaître que ça va être compliqué cette année. Donc ce sera les réseaux sociaux de toute façon. Alors après, d'une manière ou d'une autre, il y en a qui demandent de mettre un chiffre rouge à la fenêtre, il y en a qui demandent de mettre le logo des représentants syndicaux, machin. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs appels qui sont faits, mais après, ça n'aura pas le même impact de toute façon que les autres années. Ça, c'est, on le sait très bien.
Et dans les mobilisations à venir, vous espérez pouvoir tôt ou tard rebattre le pavé, pouvoir faire entendre votre voix sur l'espace public?
J'espère. J'ai même hâte parce que on se rend compte que bah oui, effectivement, quand on est confiné, on n'a pas beaucoup de pouvoir, on a surtout les mains liées et quand on est dans la rue, on se fait entendre, qu'on parle de nous, alors que sur les réseaux sociaux, je veux dire, enfin voilà, entre nous, oui, effectivement, ça va circuler, mais ça n'aura pas le même impact, puisqu'à la télévision, on n'en parle pas, parce que ça n'aura pas la même incidence de toute façon. Donc on espère pouvoir bientôt retourner, enfin moi personnellement, quoi. Aller défendre mes droits dans la rue.
Quel rôle aura la CGT dans la construction du monde d'après?
Ça dépendra de l'importance qu'on donnera à la CGT, c'est toujours pareil. Hein. On espère que grâce à nous, il y aura une pensée différente de la part du gouvernement, mais après je reste sceptique.
La reprise du dialogue social, ce sera pas plus simple après que ça ne l'était avant?
Je pense pas, parce que nous, malgré tout, on a toujours continué à se battre, là malgré actuellement, on continue à se battre, on essaye de faire remonter un maximum de choses, on continue à se battre pour un maximum de choses. Je pense pas que ça aura plus d'impact après que maintenant, parce que là, ils continuent malgré tout, même si la CGT, même si Martinez disent, bon, pour garder nos 35 heures, pour ne pas casser notre code du travail, tout ce qu'ils ont envie de mettre en place, ils le mettent quand même. Donc, je suis pas sûre que le dialogue social... ils vont faire un maximum de choses, je pense, pendant le confinement pour qu'il y ait le moins de dialogue social par la suite à avoir. Je pense. Pour moi, c'est comme ça que je ressens les choses.
Merci Barbara Semaille, secrétaire du syndicat CGT à la maison d'arrêt de Douai. Elle était pour nous au micro d'Hervé Dujardin, que nous retrouverons tout à l'heure pour une seconde intervention dans ce programme. Et vous, comment allez-vous vivre le déconfinement, puisqu'on en parle, hein, c'est maintenant dans une dizaine de jours, en tout cas, si rien ne se passe d'ici là, et comme tout ne se passe pas comme prévu, on peut au moins reconnaître ça à celles et ceux qui nous dirigent et qui ont décidé que nos chères têtes blondes ou brunes, c'est selon, rentreraient le 11 mai, mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Écoutez plutôt Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, le 24 avril dernier, chez nos confrères de Sud Radio.
Notre position et la position notamment des personnels, mais aussi des scientifiques, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec certains, c'était que cette rentrée, elle devait se faire en septembre. Ça aurait été beaucoup plus sûr, parce que là effectivement ça va poser des problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire sur la base du volontariat? Donc c'est des parents qui n'auront pas le choix, enverront leurs enfants à l'école, dans quelle mesure, dans quelle proportion, pour respecter là aussi les protections à l'école, et puis des parents qui ne voudraient pas, pour des raisons valables, envoyer leur enfant à l'école, mais qui auraient la pression de leur employeur pour retourner au boulot, comment ils seront payés, comment ils seront pris en compte. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de questions qui montrent que le gouvernement, de ce point de vue-là, a beaucoup tergiversé, parce que les messages, le moins qu'on puisse dire, ne sont pas clairs entre l'annonce du président de la République le 11 mai, où tout le monde a compris, tout le monde à l'école, et puis aujourd'hui, c'est un peu plus mesuré que ça.
Ouais. Vous appelez, Philippe Martinez, les profs à se mettre en grève à partir du 11 mai, comme vous appelez, enfin en tout cas vous avez déposé des préavis dans d'autres secteurs.
Non, je crois que je vous ai bien expliqué. Nous appelons à travailler quand les conditions de protection sont réunies. Point. La santé d'abord. Enfin, c'est quand même la priorité de tout le monde, je pense.
Oui, mais alors dans les écoles, justement, difficile. Est-ce que la sécurité sera assurée? Si ce n'est pas assuré, alors là, vous dites aux profs, non, n'y allez pas, alors.
Effectivement. Et puis, comment vont faire les profs entre ceux qui seront à l'école, c'est-à-dire pour faire classe, et ceux qui seront à la maison, parce que les profs, ils bossent en ce moment. Parfois, on a l'impression qu'ils ont eu 2 mois de vacances. Ils n'ont pas eu 2 mois de vacances. C'est quand même eux qui ont gardé le lien avec leurs élèves en faisant du télétravail, en faisant des visioconférences. Comment ils vont gérer une moitié de classe ou un quart de classe à l'école et le reste de la classe à la maison? Vous voyez, c'est ce genre de problématique qu'il faut régler.
Philippe Martinez, sur ce nœud gordien, en tout cas le 11 mai, je ne sais pas vous, mais moi, non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas célébrer l'arrivée d'une certaine gauche au pouvoir, mais je retiendrai le 11 mai 1981, parce qu'il y a 39 ans, nous quittait Bob Marley, que l'on retrouve avec cette pépite justement sur la lutte et les droits à conquérir. Et comme le disait Ambroise Croizat, le père de la sécurité sociale, mais de la retraite aussi, ne parlez pas des acquis, mais des conquis sociaux. Et il avait bien raison. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's a cold that Peter is cold.
Get up, stand up for